Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Pour rappel, Picassoft, une association UTCN qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux. De la vie privée, on vous souhaite une excellente année. Et pour commencer l'émission, on voudrait remercier particulièrement le groupe Marker Beacon. Marker Beacon, c'est le groupe dont on a utilisé une musique comme générique de l'émission. Et du coup, on les a contactés pour les remercier. Ils nous ont envoyé leur CD. Donc merci beaucoup à eux. On diffusera lors de la pause musicale une de leurs super musiques. Et aussi un grand merci à Pascal Gascoin des CMA qui nous a chaleureusement mentionné dans son émission Des Libres et vous. On vous conseille de l'écouter. C'est aussi une émission qui parle de libres. Et elle est vraiment excellente. Alors aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, puisque au lieu d'aborder les thèmes du libre comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire les jeux vidéo libres, les licences libres, on va parler de philosophie et du rapport avec le libre. Et pour ça, j'ai le grand plaisir d'inviter, d'être avec Elodie Gratreau. Salut Elodie.
Salut.
Et donc, en fait, cette émission, elle fait suite à un événement conjoint entre Picassoft et l'association dont Elodie est présidente. Et du coup, je vais te laisser présenter ton asso.
Ok. Du coup, mon asso, c'est le Café des Lumières. C'est une asso qui a réémergé dans l'espace UTC1, de l'UTC, voilà, logique, il y a quasiment un an maintenant. Donc, ça fait 2 semestres. C'est une asso qui se veut orienter philosophie, mais philosophie action, c'est-à-dire de la philosophie du contemporain, de la philosophie qui va être en prise avec des choses concrètes, pas de la philosophie comme on en fait de façon assez académique au lycée par exemple, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur qui est Platon, on va plutôt s'intéresser à un truc qu'il a raconté qui pourrait être en lien avec des problématiques du quotidien. Et voilà, l'idée, c'est de faire émerger en fait du savoir commun à partir de discussions sans prise de tête, assez simples en général, des fois un peu plus pointues en termes de concepts abordés, mais il y a toujours une présentation qui est faite au niveau des événements, et après on fait une discussion où il y a pas, voilà, enfin on fait toujours une petite remise à niveau s'il y a besoin d'une remise à niveau, et ensuite on discute de façon très tranquille, et du coup on a 3 pôles. Un pôle philosophie classique, où là, c'est les grandes questions classiques de la philosophie. Un pôle de philosophie politique et citoyenneté. Et un pôle de philosophie interculturalité et ouverture sur le monde.
Ok, merci beaucoup. Aussi, je crois savoir, Elodie, que tu as fait le cursus UTEC.
Oui, tout à fait.
Donc oui, humanité et technologie, hein, où il y a un cursus un peu spécial UTC, où il y a quand même beaucoup de philosophie, en particulier de philosophie des techniques. J'imagine que c'est des choses dont on va retrouver quelques thèmes aujourd'hui. Donc du coup l'événement qu'on avait fait ensemble c'était le 16 décembre dernier, donc nous Picassoft on avait apporté ce qu'on sait sur pourquoi en fait le libre, pourquoi faire du libre aujourd'hui, les avantages que ça a, les problématiques qu'on a avec les silos, les GAFAM et ce qu'apporte donc le libre et la décentralisation. Et puis Elodie, tu avais apporté un éclairage plus philosophique sur la question du libre, et c'est cet éclairage-là qu'on va essayer de résumer aujourd'hui, et afin de pouvoir aussi en garder une trace. Du coup, je propose de commencer. Elodie, par quoi on peut commencer ?
On va commencer avec quelque chose qui n'est pas trop abstrait, parce qu'après on va monter un petit peu en abstraction et en truc un peu compliqué et pointu en termes de questionnement. On va commencer avec quelque chose qui nous vient de l'anthropologie. Donc l'anthropologie, c'est l'étude des sociétés humaines dans toute leur globalité et complexité, qui est souvent croisée avec l'ethnographie et l'ethnologie, qui sont là des disciplines qui vont plutôt, où on trouve le côté ethno-ethnique, où là ça va vraiment être les sociétés spécifiquement, on va étudier une société dans sa spécificité, tandis que l'anthropologie c'est les sociétés dans leur globalité. Mais les deux vont souvent de pair. Et du coup, c'est quoi le lien avec le libre ? C'est que, voilà, en faisant ma petite préparation, le 16 décembre, juste avant l'événement, je suis tombée sur un petit article, parce que j'avais tapé vraiment les mots-clés libre et philosophie. Et la première chose qui pop quand on fait ce genre de recherche, c'est vraiment la philosophie du don. Le don, la philosophie du don étant quelque chose d'assez... qui a été pas mal pensé à un moment, il y a quelques décennies, notamment par Marcel Mauss. Marcel Mauss, c'est un anthropologue français On dit que c'est le père de la philosophie, de l'anthropologie à la française. Et il a fait un livre qui s'appelle vraiment, je crois, Philosophie du don ou un truc de ce genre-là. Donc c'est vraiment la référence quand on veut parler de don. Et le truc, c'est que en fait, il y a ce triptyque qui peut être un peu discuté, notamment quand on parle du libre, qui est donner, recevoir et rendre. Donc ça, c'est le triptyque de Marcel Mauss par rapport au don. Et du coup, dans l'article que je lisais, il critiquait cette approche-là parce qu'il manquait quelque chose d'a priori essentiel, qui est qu'en fait, un don, ça remplit la fonction d'un principe liant qui permet au donateur, donc celui qui reçoit, de montrer son attachement à un système de valeurs qui est donc véhiculé par le donateur, donc celui qui donne. Et donc là, je vous fais une petite définition peut-être un petit peu abstraite. Il y a deux moments clés dans cette phrase. C'est le côté liant, c'est-à-dire qu'en fait, un don, c'est une relation entre, du coup, un donateur et un donateur, ou un donateur et un donateur, enfin, entre les deux, c'est une interrelation, une intersubjectivité. Et il y a l'idée de système de valeurs. Et vraiment, donc, quand on dit système de valeurs, il y a à la fois des valeurs, mais aussi un côté systémique, donc un côté de mise en relation entre ces valeurs. Et du coup, je vous avais posé la question et je vais te la reposer. Quelles sont les valeurs du libre ? Quel est quand on fait un don dans le cadre du libre ? Parce que du coup, on parle de don dans le cadre du libre. Quelles sont les valeurs qui vont être véhiculées par le don ?
Alors, c'est vraiment une excellente question. Pour être honnête, je ne me rappelle plus du tout de la réponse que j'ai donnée. Mais aujourd'hui, ce que ça m'inspire, c'est que... je vais faire peut-être une réponse un tout petit peu plus longue, un petit aparté, mais... Aujourd'hui, dans la communauté du libre, on se rend compte qu'il y a, alors je dirais pas une crise des valeurs parce qu'elle a toujours existé, mais en tout cas une séparation entre plusieurs types de valeurs qui vont pousser un individu à faire un don dans le cadre du libre. Donc quand on parle du libre, hein, on peut parler aussi bien de logiciels libres, plutôt de logiciels libres d'ailleurs ici, mais aussi de culture libre, hein, tout ce qui est sous licence libre. D'un côté, là où Picasso se positionne plutôt, il y a les valeurs de partage, de libre circulation de la connaissance, d'inclusion, de diversité, donc de permettre à chacun de se saisir d'un sujet et d'être acteur, d'être plus seulement consommateur. Ça, c'est donc ce que moi j'appelle les valeurs du libre en général. Et de l'autre côté, il y a aussi les valeurs qu'on dirait plus de l'open source. Alors on pourra discuter de cette séparation plus tard, mais pour certains et pour certaines, le libre, c'est uniquement quelque chose qui est performant. Ça a été étudié, le libre fonctionne aussi bien dans le business qu'ailleurs, mais permet d'avoir des outils qui sont de qualité, qui évitent le competitive waste, donc le fait que plusieurs entités travaillent sur la même chose dans différents points de l'espace et perdre du temps à le faire, et permettre d'améliorer la sécurité, etc. Donc je dirais que les valeurs du libre, d'un côté, il y a des valeurs plus sociales et sociétales, et de l'autre côté, on va plus avoir des alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs, mais des valeurs de performance et d'efficacité. Donc en tout cas, tout ça est mélangé dans le package de ce que les gens appellent le libre aujourd'hui.
Ok. Et du coup, tu vois, il y a... T'as d'une part ce côté social et ce côté plus peut-être technique, on dirait.
Ouais, carrément, c'est ça.
Du coup, ça crée un système, tu vois. Ça, c'est pas forcément... Ça peut paraître peut-être opposé, ou tu me disais tout à l'heure en aparté, avant l'émission, que des fois, il y avait des sortes d'oppositions idéologiques qui se mettaient en place dans les personnes qui travaillent dans le libre. En fait, c'est le côté là, systémique, qui va permettre de résoudre un peu le problème, parce que du coup, un système... C'est quelque chose qui fait lien, qui fait relation, et aussi qui peut être source de controverses, et justement là c'est là qu'on pourra retourner sur les controverses tout à l'heure, parce que Bruno Latour, dont je parlerai tout à l'heure je vous spoil pas, dont je parlerai tout à l'heure.
Mais voilà. Si, il faut teaser à mort. Hein.
Faut teaser à mort. Ok, eh ben on parlera de liberté et de comment est-ce qu'on peut penser la liberté du libre. Et j'utiliserai Bruno Latour et sa théorie de l'acteur réseau. Et en fait, cette théorie de l'acteur réseau, elle a émergé dans l'étude des controverses, en fait. Dans l'étude des controverses en laboratoire, sur comment est-ce que la science se fait dans les laboratoires et comment est-ce que les controverses scientifiques émergent. Mais les controverses scientifiques, c'est aussi des controverses techniques et des controverses socio-techniques. Et du coup, ce qui fait système, dans un cadre de valeurs, c'est des choses où il peut aussi y avoir des tensions. Et du coup, c'est pas contradictoire de dire qu'il y a d'un côté les valeurs sociales et ouais, et voilà, il y a d'un côté les valeurs sociales, d'un côté les valeurs techniques. En fait, il y a des valeurs socio-techniques. Et du coup, ce système de valeurs et l'interdépendance entre le donateur et le donateur, ça va être garanti par des cadres. Par des cadres socio-techniques, par des cadres juridiques, par des cadres légaux qui existent. J'imagine que vous en avez déjà parlé dans votre émission,
ouais.
Donc on ne va pas forcément revenir dessus, mais on en avait parlé un petit peu lors de la soirée, parce que moi, je n'y connaissais pas grand-chose et je ne m'étais pas trop renseignée. Et voilà, moi, je pense qu'en termes de philosophie du don, je n'ai pas énormément de choses à dire. Juste une dernière chose, c'est que il ne faut pas confondre le don et le cadeau, parce qu'en général, on se dit que ce sont des synonymes. Quand on dit qu'on fait faire, je sais pas, don de 5 euros à une association, on se dit qu'on lui fait un cadeau.
Ouais.
C'est pas tout à fait ça, parce que quand on fait don à une association, on utilise vraiment le mot don, parce que ce qui est véhiculé par l'idée de donner de l'argent à une association, ça va être qu'on adhère au système de valeurs. Tandis que si on fait un cadeau, par exemple, à sa grand-mère, il y a pas de système de valeurs derrière, c'est plutôt un système relationnel en fait qui est en jeu. Alors, on pourrait se dire qu'il y a des valeurs relationnelles, mais c'est pas des valeurs au même sens, en tout cas d'un point de vue anthropologique. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire la dissociation entre don et cadeau,
okay.
D'un point de vue conceptuel, mais je pense que c'est vraiment autour du système de valeurs que se fait la différence.
Ok, parce que de toute façon, on peut aussi s'interroger sur est-ce que le libre, c'est vraiment... Enfin, ça rentre complètement dans la définition du don. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du libre en tant que commun. On peut penser à Wikipédia qui est considéré comme un commun, donc un commun, une ressource qui appartient à tous et à tous, donc au sens de bien commun, mais aussi qui est géré par toutes et par tous, ce qui n'est pas le cas d'un bien commun. Mais du coup, voilà, est-ce que gérer un commun, aider à gérer un commun et partager la propriété d'un commun, disons, ça fait partie du don. Enfin, je veux dire, est-ce que dans le libre, il n'y aurait pas une partie qui vraiment relève du don et une partie qui relève d'autre chose qui n'est pas exactement dans le...
Qu'est-ce qui ne relèverait pas exactement du don, du coup, plus précisément ?
Bah, j'ai l'impression que... En fait, je sais pas, c'est plus une impression. Par exemple, quand je vais contribuer à Wikipédia, j'ai pas l'impression de le faire au sens où moi j'entends don habituellement. Alors c'est vrai que c'est peut-être ma définition
du don.
Parce
que c'est pas le même système de valeurs, en fait.
Ok.
Tu vois, Wikipédia c'est un commun, mais est-ce que c'est du libre pour toi, Wikipédia ?
Oui, c'est complètement libre.
C'est complètement libre. Du coup, tu dirais qu'il y a... Mais en fait, c'est parce que t'as pas la même position. Dans un cas, tu peux être donateur, dans un cas, tu vas être donateur.
Ouais.
Et du coup, c'est le système de valeurs, tu n'as pas la même position dans ce système de valeurs. Donc, je pense que c'est ça la différence qui se fait.
Parce que si tu veux, moi, dans le don, alors là, pour le coup, c'est peut-être là où je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'un peu c'est désintéressé.
Non, c'est pas forcément désintéressé.
Et c'est peut-être là où je me trompe, parce que c'est vrai qu'en contribuant sur Wikipédia, bien que je le fasse avec tout l'amour que j'ai pour le libre et on pourrait dire un certain désintérêt pur, noble et tout, en vérité, je sais aussi que ça va me revenir en fait. Je sais que je contribue en sachant que ça va me revenir d'une manière ou une autre, de manière détournée, et j'ai l'impression que justement, une des caractéristiques des communs, c'est que tout le monde y contribue et donne de sa personne parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va...
Bah, de toute façon, le travail de Marcel Mauss, donc avec le triptyque donner, recevoir, rendre, il n'est pas forcément à ajouter complètement, tu vois. Fin...
Oui, c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que l'article que tu lisais faisait juste montrer que... Enfin, expliquait qu'il n'y avait pas juste... Il manquait, dans sa définition de Marcel Mauss, l'idée du système de valeurs qui est super important, ou est-ce qu'il remettait aussi en cause ce triptyque-là ?
Dans la façon dont c'était formulé, il voulait le remettre en cause, mais c'était pas du tout élaboré et il n'y avait pas d'argumentation autour du fait de le remettre en cause. En fait,
okay.
Il le remettait en cause par leur définition, mais moi je trouve qu'elles sont complémentaires en fait. Donc elles ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre. En fait, tu vas vraiment en avoir une où tu as le système de valeurs et le côté d'interdépendance qui est important. Et je trouve qu'en fait, le système de valeurs, il peut rester dans le côté rendu. Et en fait, un don où il y a une attente de retour sur investissement, si on veut, bah, ça veut dire que le système de valeurs, en l'occurrence, c'est un système de valeurs où il y a un retour sur investissement qui est dedans.
Okay,
ça
ouais.
Fait partie des valeurs en fait, qui sont dans le système.
Mmh.
Et tu vois,
ouais, c'est intéressant.
C'est possible, ça reste du don. C'est pas incompatible, c'est juste que du coup, la définition de Marcel Mauss, c'était un don spécifique où, dans le système de valeurs, il y a effectivement le côté de retour.
Ok.
Tandis que tu peux avoir une conception plus large du don où il n'y a pas forcément de retour.
Du coup, ça serait un sous-ensemble, ouais, ce que dit Marcel Mauss, mais ça s'intègre. Et juste, j'avais une dernière question, je pense que tu y as quand même un petit peu répondu. Mais quand tu parlais de ce principe liant, donc le don, hein, qui permet au donataire de montrer son attachement à un système de valeurs, dans le cas où justement on a des systèmes de valeurs avec des controverses, des tensions, comment est-ce que le donateur finalement va se positionner, en fait, est-ce qu'il va prendre simplement ce qui lui convient, comment il manifeste son attachement?
Je pense qu'il y a différents, d'un point de vue, là j'ai parlé de façon très concrète, je pense que ça va dépendre des personnes, c'est un peu nul comme réponse, genre ça dépend, mais l'idée c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont conscientiser cette idée de montrer un attachement à un système de valeurs et donc qui vont effectivement se demander quelle valeur je veux faire en étant donataire ou donateur d'un système, en étant dans le don, quelle valeur je veux mettre en avant et qui donc là vont s'intéresser du coup aux valeurs qui sont véhiculées par telle ou telle entité libre, par exemple, tandis que t'en as d'autres qui vont juste se dire bon, le libre c'est bien, du coup je prends le premier truc qui vient et je regarde pas trop dans le détail. Et je sais que moi, pour le moment, comme je suis un peu débutante dans le libre, je me dis bon, je vais sur des plateformes sûres où je sais qu'il y aura, voilà, je regarde les chatons et je me dis bon, a priori ils sont tous plus ou moins pareils, mais en fait je sais que c'est pas le cas, c'est juste que pour le moment j'ai pas trop les clés pour aller chercher plus en détail.
Ok, et bah super, du coup on peut se dire qu'on va entamer une petite pause musicale histoire de calmer
les cerveaux.
Du coup, comme promis, ce sera du Marker Beacon, hein, vous pouvez les retrouver sur leur site markerbeacon.org, c'est sur leur album Dead Frequencies, ça s'appelle New Shell, c'est super bien et c'est évidemment sous licence libre en CC BY SA, bonne écoute.
Take our happiness. She is my friend.
sur La Voix est libre. Vous écoutez toujours Graphite 94.9. C'était New Shell par Marker Beacon sur l'album Dead Frequencies. Vraiment du bon son, hein. Merci encore à eux. Du coup, on reprend notre émission sur la philo et le libre. On a parlé pendant la première partie d'émission de la philosophie du don et de comment on pouvait le raccrocher au libre et penser... le libre avec ça. Là, Élodie, tu nous as teasé tout à l'heure, je crois qu'il est temps de rentrer dans le vif du sujet, dans un truc un peu utech aussi, quand même, je crois, non ?
Un peu utech, un peu mon master que je fais actuellement aussi. Ouais, c'est bon, ça va être plus compliqué, je pense. Et ouais, plus utech dans la mesure où ça va être de la philosophie des techniques assez pure.
Yes.
Parce que je vais poser une question qui va faire un peu fumer les cerveaux.
On a tout notre temps, on va y aller calmement, on s'assoit.
On va laisser la fumée monter tranquillement et on va être enfumé dans la pièce.
On va infuser tout ça, allez.
On va infuser. Alors, le livre, notion de liberté en philosophie. Spontanément, on pense que à ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans l'expression open source. Donc rien que pour ça, on va faire cette distinction, on va vraiment parler du libre et pas de l'open source, en tout cas pour la question que je lui posais. En fait, le libre, être libre, tu vois, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Bon, c'est une question qui est compliquée, qui vient de la philosophie classique, beaucoup de penseurs ont dit beaucoup de choses dessus, mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'un logiciel peut être libre en soi, tu vois ? Est-ce qu'il peut faire montre de liberté en lui-même ? Est-ce qu'il peut exercer sa liberté en lui-même ? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être acteur de sa liberté à un logiciel ? Est-ce qu'un logiciel peut être un acteur ? Et du coup, c'est une question un peu compliquée, parce qu'on se dirait spontanément, bah non, enfin, je veux dire, quand on dit logiciel libre, non mais c'est pas le logiciel qui est libre lui-même, c'est...
Allez, c'est plié, voilà, c'est bon, bonne journée.
Non mais non, parce que justement l'idée c'est qu'il y a quand même deux réponses possibles, c'est vraiment, bon ça fait question fermée parce que ça fait oui-non, tu vois, tu peux faire une disserte dessus tranquillement, thèse, antithèse, synthèse, et du coup l'idée, là j'aimerais vous présenter un peu les deux postures, la non et la oui, je vais commencer par la non parce que c'est la plus simple je trouve, l'idée c'est que c'est un truc qui avait émergé, on a fait une discussion sur la liberté avec le Café des Lumières, début décembre, il me semble, ou fin novembre, quelque chose comme ça. Et ce qui avait émergé, c'était que pour exercer sa liberté, on a besoin d'être un être réflexif, c'est-à-dire d'avoir une conscience de soi réflexive, donc d'avoir conscience d'avoir conscience. Voilà, donc là déjà je commence à faire l'inception.
On aime le méta, hein, vraiment.
C'est ça, conscience-ception. en tout cas... l'exercice d'une conscience réflexive, un logiciel, a priori, n'a pas de conscience réflexive. Un logiciel n'a pas conscience de lui-même.
Que jusque-là.
Jusque-là, ok. Du coup, ça veut dire que non, ce n'est pas le logiciel qui fait montre de sa propre liberté. Ça veut dire que ce sont les propriétaires et les gérants des logiciels qui exercent leur liberté de rendre libre leur logiciel, mais libre, du coup, avec des guillemets, parce qu'ils ne vont pas le libérer, il ne va pas s'envoler avec ses petites ailes, quoi.
Ouais.
Et ensuite, ce sont les usagers qui vont exercer leur liberté obtenue d'utiliser, de modifier, d'étudier, de redistribuer tout ce qui va être autour du libre. Donc là, c'est la position non. Je la trouve relativement simple. Une fois qu'on a compris que pour exercer sa liberté, il faut avoir une conscience réflexive, bah tu dis ok, à ce moment-là, non, il a pas de conscience réflexive, mon logiciel. Donc, mais bon, c'est toujours discutable aussi de se dire qu'effectivement, il y a besoin d'une conscience réflexive pour être libre, parce que ça veut dire que les enfants en bas âge qui n'ont pas encore conscience d'être eux-mêmes, ils ne sont pas libres, ça veut dire que les animaux ne sont pas libres. Enfin, certains animaux, parce qu'on a des expériences qui ont montré qu'il y a des animaux qui ont conscience d'eux-mêmes. Mmh. Quand ils se voient dans un miroir, ils savent qu'ils
ouais,
sont eux-mêmes.
Ouais, tout à fait.
Voilà, donc ça, c'est de la conscience réflexive. Mais c'est discutable comme critère, mais c'était le critère qui avait pas mal émergé de notre conversation. Donc c'est celui que j'avais retenu pour préparer, pour préparer mon intervention.
Ouais, de toute façon, il faut bien, il faut bien se positionner quelque part.
Ouais.
De toute façon, ça amène plein de questions aussi. Est-ce que, c'est plus des expériences de pensée, mais sur est-ce que la conscience réflexive, ça permet forcément le libre arbitre ? Alors, je sais pas si c'est exactement la même chose que la liberté, mais
là, justement, c'est un peu ça l'idée. C'est que, enfin, justement, si on parle de conscience réflexive, c'est qu'on parle d'une liberté qui va être active, donc du libre arbitre, c'est-à-dire une capacité d'action. c'est la liberté comme capacité d'action. Sinon, l'idée de réflexion, enfin de conscience réflexive, n'est pas forcément, va pas forcément être là. Et l'idée, c'était qu'on nous imposait une liberté dont il fallait qu'on fasse quelque chose. Mmh. Donc en fait, la liberté, telle qu'on l'a définie dans cet événement, c'était la liberté de choisir. Et de choisir aussi de ne pas choisir, potentiellement. Mmh. Mais dans tous les cas, de renoncer, du coup. Et du coup, que c'était un poids. Parce que la question qu'on se posait, c'était la liberté est-elle un poids ?
Ouais.
Est-elle une contrainte, en fait ? Et oui, nous, on est arrivés là-dessus, mais on se demandait aussi comment est-ce qu'on est libre. Et c'est à travers notre conscience réflexive.
Ok.
Voilà, c'est donc le critère qu'on va retenir, en tout cas pour cette discussion, si ça te va.
Carrément, ça me va très bien.
Sinon, j'en aurais demandé un autre.
Hein. Non, ça me va parfaitement bien. De toute façon, il y a toujours des petites expériences de pensée rigolotes. Et typiquement, je sais que, c'est des thèses extrêmes, mais c'est pas une conjecture, c'est une... Peut-être la thèse de Church-Turing qui dit que potentiellement l'univers serait une gigantesque machine de Turing, simplement avec le chaos, on est incapable de la modéliser concrètement, mais du coup, si c'était le cas, c'est ça complètement absolu, et donc c'est rigolo d'imaginer ce que ça donne d'avoir la conscience réflexive, à haut niveau, mais à très bas niveau, un déterminisme complet, on se dit, Bref, mais du coup, ce qui est intéressant avec ce critère de la conscience réflexive, c'est on peut aussi se dire à partir de quand est-ce qu'on peut parler de conscience réflexive ? Et du coup, dans le cas des logiciels, on pense évidemment aux intelligences artificielles. Alors, si aujourd'hui, je pense qu'il y a un fantasme tout à fait gigantesque sur ce que sont capables de faire les IA, c'est-à-dire des tâches très spécialisées, où on peut clairement pas parler, je pense, de conscience réflexive. Beaucoup projettent l'émergence de cette fameuse singularité qui arriverait à avoir conscience d'elle-même et qui se comporterait pas nécessairement comme un humain, mais qui aurait des caractéristiques proches du cerveau apprenant bayésien de l'humain. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une question qui se posera d'autant plus ?
Ah bien sûr. Si jamais on commence à avoir des logiciels de l'intelligence artificielle qui commencent à avoir une conscience réflexive, ou en tout cas qui semble montre qu'il y a conscience réflexive, mais du coup on peut penser au test de Turing, si je ne me trompe pas, qui est le test pour savoir si la personne à qui on parle est un robot ou un humain.
Ouais, tout à fait.
Voilà, là du coup, ce sont des questions qui se posent, parce qu'on a l'impression que la conscience réflexive, c'est le propre de l'être humain, mais en fait, tout à l'heure on parlait des animaux, et puis du coup maintenant il peut y avoir l'IA... Ça va se poser d'autant plus que ça va monter en puissance technique et en complexité technique aussi. Parce que effectivement, après, du coup, c'est bien, je peux faire une petite transition vers mon oui. À quel moment, en fait, est-ce qu'on peut dire que le logiciel devient acteur ? Parce que du coup, le oui, ça veut dire qu'il faut penser des êtres non humains comme des acteurs ou des actants. Alors, sachant que acteur et actant, ce n'est pas une dissociation qui est très évidente à faire. Un actant, c'est un acteur, mais au sens très très large, ça peut aussi être une entité, un organisme. C'est-à-dire que acteur, ce n'est pas forcément un individu, ou actant, ce n'est pas forcément un individu, mais globalement, Bruno Latour ne fait pas la différence entre acteur et actant. Il utilise les deux mots dans sa publication en anglais. Et du coup, Bruno Latour, c'est le penseur, comme je vous le disais tout à l'heure, de la théorie de l'acteur réseau, ou alors ANT, A-N-T, Actor Network Theory. Et c'est une théorie dans laquelle il pense qu'il faut penser à la fois les sujets et les objets, les humains et les non-humains, comme étant tous au même niveau en termes d'action. Par exemple, dans une controverse scientifique ou dans un laboratoire, tout ce qui est présent en fait, dans le laboratoire. Donc, tu vas avoir tes éprouvettes, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de science, moi. Du coup, je ne sais même plus ce qu'il y a dans un laboratoire, tu sais. Mais,
allez, mettons des microscopes, par exemple.
Ouais, voilà, super. Le microscope, c'est un super exemple, parce que ça te permet de te montrer ce qui existe, mais du coup, ça fait médiation, si tu veux. C'est pas neutre du tout, parce que si tu dessines ce que tu as vu dans le microscope, est-ce que ce que tu as dessiné, c'est la réalité, ou est-ce que c'est une réalité augmentée ? Est-ce que si tu prends une photo de ce que tu vois dans le microscope, c'est toujours ce que tu vois effectivement dans le microscope, mais parce qu'il y a eu un objet technique en plus qui s'est rajouté, l'appareil photo, et plus ce développement potentiellement. Et les vieux microscopes du XVIIe siècle, là où il y a eu les premiers microscopes, est-ce que si tu prends une photo de ce que tu vois, parce qu'on peut encore les utiliser ces microscopes-là, hein, le microscope de... le Ben Wook, un truc comme ça, ou le Van Wook, bon, vous retrouverez, vous cherchez premier microscope, vous retrouverez dessus. C'est un microscope avec une seule lentille, je crois. Et on peut encore l'utiliser aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui a pris une photo de ce qu'il voyait à travers le microscope.
Ouais.
Et on se demandait, du coup, si j'ai vu ça en cours cette année, on se demandait est-ce que c'est toujours effectivement ce qu'on voit dans le microscope ? Est-ce que c'est pas un artefact ? Est-ce que c'est ce que voyaient les gens au 18e ? Au 17e, pardon. Bah non, pas tellement, quoi. Enfin, ils voyaient pas avec un appareil photo, les gens.
Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, le fait que... comment dire, l'objet technique soit pas...
Le fait qu'il soit pas neutre, en fait, ça le rend comme acteur.
Ça, ok, mais du coup, j'ai du mal à... Parce que c'est vrai que moi, quand on me dit acteur, je pense tout de suite à volonté propre, des choses comme ça. Mais du coup, comment penser... comment mettre le logiciel libre dans cette case ? Parce que c'est vrai que, si tu veux, par logiciel libre... essentiellement, si on se base quoi, sur la définition de la Free Software Foundation, c'est les quatre libertés de l'utilisateur. Donc c'est vrai que c'est logiciel libre en tant que...
Il définit à travers l'utilisation qu'on va en faire.
Ouais,
en fait.
Ouais, carrément. Mais effectivement, le fait d'avoir le code qui est ouvert, qui est modifiable, etc., en tout cas, ça augmente les possibilités de faire des choses avec ce truc. Mais comment... Ouais, du coup, j'ai du mal à voir les implications philosophiques que ça aurait de dire que le logiciel est libre en soi.
Que le logiciel est libre en soi, ça n'a pas forcément une implication philosophique forte, en fait. Enfin, c'est une position théorique très forte, parce que ça veut dire que tu considères que ton objet technique, que ton code, il a une liberté propre.
Okay.
C'est-à-dire qu'il peut... mais ça ne veut pas dire que concrètement, ça va changer quelque chose, tu vois. C'est juste un positionnement théorique. Et du coup, c'est plus une expérience de pensée que quelque chose de vraiment concret qui va avoir des implications. Ça va avoir des implications philosophiques, c'est-à-dire des implications dans ta pensée, dans ton raisonnement et dans ta conclusion. Mais concrètement, ça va pas changer ce qu'est le logiciel, tu vois. Tu vas pas te dire, si t'as pas ton logiciel devant toi, tu lui dis t'es libre, et tout ça, il se métamorphose dans un truc, tu vois.
Évidemment.
Du coup, en fait, ça a pas des implications qui sont concrètes, donc c'est des implications qui sont difficiles à penser, qui sont difficiles à imaginer, et où là, la philosophie est en train de se faire, en fait.
Ouais.
C'est un matériau un peu, surtout que c'est un truc super contemporain, le libre, je sais pas, je pense peut-être qu'en fait, c'est pas si contemporain que ça, et que ça remonte à bien plus longtemps que je pense.
Alors, le libre en tant que, commun, oui, ça remonte ouais. Rien que par exemple. On avait fait une émission sur les publications scientifiques où on disait que, bon, c'est pas si vieux, mais en 1700-1800, ENS était de fait comme sous une licence libre. Quoi. Il y avait vraiment. Mais après, évidemment, le logiciel libre. Voilà. Mais non, le libre, c'est. L'histoire du libre est assez vieille. Finalement, le côté propriétaire est beaucoup plus récent que le côté libre.
Oui, ça m'étonne pas, en fait.
Dans l'histoire, ouais. Mais du coup, est-ce que. Alors bon, là, je sais que c'est un peu. Un peu compliqué, mais est-ce que tu aurais des exemples peut-être d'implications que ça pourrait avoir au niveau des conclusions, d'implications philosophiques que ça pourrait avoir de penser un logiciel, un code comme un acteur, ou est-ce que c'est...
Comme un acteur, que, donc des implications philosophiques,
ouais.
Ça, en fait, ça veut dire que tu vas pas te positionner comme développeur de la même façon.
Ok.
En fait, ça veut dire que tu, t'es, si tu veux, t'es sur le même, t'es au même niveau que ton code. Et du coup, il y a de la transduction qui se fait. La transduction, c'est un concept de Simondon qui dit qu'en fait, il y a une interdépendance entre la technique et l'humain. Et là, c'est complètement ça. Ça veut dire qu'en fait, ton code, il va aussi avoir un impact sur toi. Et que du coup, t'es pas tout à fait libre non plus, parce que, tu sais, la liberté, ma liberté commence là où ça s'arrête celle de l'autre. Si tu rencontres une autre liberté, parce que tu rencontres ton code qui est libre,
ouais.
Ça veut dire que il va avoir un impact sur toi, tu vas avoir un impact sur lui parce que tu le codes, mais en même temps, il te code quelque part aussi, tu vois.
Bien sûr. En fait, c'est vrai que Ça, pour le coup, ça a beau être un concept de philo que je connais pas, c'est un truc qu'on rencontre énormément en pratique et dont tout le monde parle, même si on n'utilise pas le terme transduction. C'est qu'aujourd'hui, nos usages d'outils numériques, hein, on pense à tous ceux proposés par les GAFAM, mais aussi même les outils libres, bah évidemment, influencent énormément notre comportement et donc, je sais pas, sur un réseau social, typiquement, on va évidemment faire le réseau social, mais en retour, lui, il va nous faire aussi. Donc du coup, ça voudrait dire que si un logiciel est libre, en plus d'avoir son usage, qui de toute façon va nous influencer, le code, à sa lecture, à sa modification, va aussi rajouter un peu plus de cette interdépendance. Donc du coup, le fait de libérer le code en ferait un acteur plus, comment dire, plus
avec
fort,
plus de libre arbitre.
Oui, c'est ça, avec plus d'influence, ouais. Peut-être aussi.
Oui, c'est ça. Okay, d'un point de vue positionnement théorique, en tout cas.
Oui, ouais, d'accord. Ok.
Voilà. Et après, on avait parlé aussi, ça rend aussi potentiellement plus intense en termes de pharmacone, c'est-à-dire, pharmacone, c'est un mot grec qui veut dire à la fois antidote et poison. C'est-à-dire que, si tu veux, plus on tend à... C'est complètement illusoire de se dire que la technique est libre, mais plus on... que la technique est... Pardon, pas
neutre.
Libre, neutre. Parce que la technique libre aussi, on en parle depuis tout à l'heure, donc voilà. Que la technique est neutre, c'est complètement illusoire de se dire ça, mais on peut tendre à vouloir rendre la technique la plus neutre possible,
ouais.
dans son action, etc. Et du coup, de diminuer son intensité de pharmaconienne, si on veut.
Ok, ouais.
Je dirais que si elle a monté en liberté, elle va avoir monté en pharmacone, en potentiel pharmaconien. J'utilise des néologismes qui n'ont aucun sens.
On les comprend, on
mais
les comprend.
Voilà, l'idée, c'est que il a d'autant plus la possibilité de devenir à la fois antidote et poison, en fait.
Ok.
Je pense. Après, c'est vraiment là, c'est la philosophie en train de se faire. Là, qu'on est en plein, on est en train d'écrire une dissertation. On est en train de faire notre plan brouillon. C'est un peu dans sa part. C'est pas très clair, tu vois, mais. Je dirais que ça peut le rendre plus dangereux, quelque part. Et en même temps, ça peut le rendre plus solutionnant.
Ok, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Oui, bah ça a du sens. Moi, je reviens toujours à des exemples bassement matérialistes, du coup, qui enlèvent un peu la substance de ce que tu dis, mais ça me permet aussi de me donner des exemples. Mais juste sur un cas très simple, bah, le fait de libérer... un code source, ça pourra être utilisé pour faire le bien ou faire le mal. Donc rien que sur le niveau zéro du pharmacone, bah, dans tous les cas, laisser plus de liberté et aux utilisateurs et aussi du coup aux logiciels d'avoir cette influence qui dépendra de toute façon des utilisateurs, bah forcément, ça augmente le champ des possibles dans les deux directions. Quoi.
Mais justement, une des conclusions à laquelle on était arrivé dans notre débat sur la liberté, c'était que la liberté était un pharmacone. Parce que, en fait, c'est super d'être libre et de pouvoir faire des choix et ce genre de choses, mais en même temps, c'est un poids, en fait. Parce que, si tu veux, t'es obligé de faire un choix. Même si c'est le choix de ne pas choisir, tu fais le choix de ne pas choisir. Et du coup, il y a des personnes qui, pour se retirer ce poids-là, délèguent leur liberté sur, d'un point de vue, en se hiérarchisant, en fait, en déléguant leur capacité de libre action, en ayant un supérieur hiérarchique, mais dans leur vie, si tu veux. On pourrait penser à Facebook ou même Google qui prennent des décisions pour nous, finalement.
Tout à fait.
Voilà. Et du coup, la liberté est un pharmacone, mais du coup, je pense qu'avec le libre, on tend à essayer de maximiser le côté positif de la liberté pour minimiser le côté négatif, et que du coup, on essaie de sortir de cette idée que c'est un pharmacone, en fait.
Bah oui, bien sûr, mais c'est vrai que, ouais, finalement, des fois, c'est beaucoup plus confortable de s'en remettre à quelqu'un d'autre. De décider pour nous plutôt que de devoir décider, parce qu'effectivement décider ou décider de ne pas décider, bah, ça implique de se poser des questions qui vont peut-être parfois nous mettre mal à l'aise ou auxquelles on n'a pas forcément la réponse ni le temps de réfléchir. Donc en ce sens, le logiciel libre, juste par le fait d'être libre et du coup de permettre, parce que c'est d'autres conséquences aussi, mais la diversité, toute l'offre que ça va faire, bah, te pousse forcément à devoir faire des choix. Et pourquoi est-ce que tu vas faire ces choix-là? Est-ce que c'est par rapport à ton système de valeurs? Qu'est-ce que ça véhicule? Donc finalement, c'est vrai que si on voit le libre un peu ouais, comme une sorte d'acteur, on voit qu'il pousse aussi à une certaine forme de choix qui est plus difficile, je trouve, en tout cas, a priori, que dans des systèmes propriétaires et avec peu de diversité. Quoi.
Oui, tout à fait.
Ok, et eh ben dis-moi Elodie, je crois que
c'est bon, on arrive un petit peu
à la fin de cette émission du coup qui était un petit peu spéciale. J'espère que eh ben ça vous a intéressé ou du moins ça vous a donné envie de réfléchir un petit peu à la question, même si c'était alors je dirais pas brouillon parce que c'est un peu négatif, mais en tout cas sous forme d'échange pas écrit. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était super intéressant et j'ai envie de réfléchir à plein de trucs. Du coup, Elodie, si t'es chaude pour empiler sur une deuxième mission, on en reparlera, mais ouais. On a un truc sous le coude. En attendant, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Merci beaucoup, Elodie, d'être venue
avec plaisir
avec nous pour nous éclairer de tes lumières. Pour les UTC1 et les UTCN qui nous écoutent, s'il y en a, n'hésitez surtout pas à rejoindre l'assaut du Café des Lumières le semestre prochain, parce que c'est une super assaut pour y avoir mis les pieds quelquefois. Et puis n'hésitez pas non plus à venir faire un petit tour chez Picassoft. On vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut.